Alors, si vous le voulez bien, commençons par relire ensemble la prière d'ouverture de la messe du jour. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Amen. Alors, bonjour mes chers confrères. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver, aussi nombreux, en ce lendemain de la veille, pour continuer l'enregistrement de cette interpellation fraternelle en Église adressée à mes frères prêtres, pasteurs d'âme. Nous procéderons aujourd'hui à l'enregistrement de la deuxième et dernière cassette. Comme je l'ai indiqué l'autre jour, ce partage comprend cinq points majeurs. Et jusqu'ici, nous en avons parcouru deux et demi. Nous sommes donc tout à fait à mi-chemin. Vous vous souvenez que les deux premiers points portaient le premier sur la visite pastorale de Jean-Paul II et l'exemple extraordinaire qu'il nous a donné. Le deuxième point sur le parallèle entre ce qui est la force de l'Église, la mise au point de belles et clairvoyantes pastorales, et la faiblesse de l'Église à l'heure actuelle, la qualité d'être spirituelle insuffisante des pasteurs d'une façon générale. Nous avions commencé à aborder le troisième point. Et le troisième point consistait à nous dire comment le renouveau en profondeur spirituel de l'Église, comment cela se fera-t-il? Et c'est là que je vous avais invité, chers confrères, à une plongée dans la foi. Il n'y a qu'une seule solution pour rattraper le momentum nécessaire de l'Église, c'est de s'en remettre comme de tout petit enfant de Dieu entre ses mains. Nous connaissons fort bien ces textes de l'Évangile. « Je te loue, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Et Jésus va même plus loin. « Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. » Saint Paul revient un peu avec la même idée quand il nous dit « Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde ?» Et Jésus, on se souvient, le disait à ses disciples, « Je vous le déclare, si vous ne changez et ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, retenons de ces deux affirmations que la sagesse humaine, qui est l'activité de la raison humaine, n'est pas critiquée comme telle, car elle est l'œuvre de Dieu. Mais ce qui est dénoncé, c'est qu'elle devient trop souvent, cette sagesse humaine, cette raison humaine, elle devient trop souvent suffisante et se veut la norme unique et ultime. Alors que lorsqu'on se laisse changer et devenir comme de petits enfants, le Seigneur nous montre à savourer et accepter notre dépendance envers lui, sans complexe, en toute liberté. Et nous devenons beaucoup plus facilement des êtres humains sans prétention. Et dans ce troisième point, si vous en souvenez bien, j'avais commencé à donner des exemples concrets, des exemples vécus de diverses transformations opéré par le Seigneur en nous au cours des mois et des années dans le but évident de nous conduire dans et vers la simplicité d'enfant de Dieu. On ne se donne pas la simplicité, on ne se l'injecte pas. Lui, il a fait grandir et s'épanouir en nous. Et j'avais eu juste le temps, je pense, si ma mémoire est bonne, de vous donner un premier exemple. Et j'avais dit que le Seigneur avait fait exploser en chacun de nous ce que j'appellerais, selon l'expression d'un de mes confrères et amis, ce que j'appelle notre infernale boîte à questions. Ce département de notre être qui est situé en haut des épaules, là, un peu entre les deux oreilles, et qui nous amène à vouloir tout scruter et analyser continuellement. Eh bien, il l'a fait exploser et il nous a mis confortablement à l'aise dans ce département. Je passe immédiatement à deux ou trois autres exemples. Une autre transformation qu'opère le Seigneur et que nous avons découvert rétroactivement également, c'est qu'il nous apprend à chacun à laisser tomber la tête dans son cœur. Et on pourrait écrire « son » avec un petit « s », son cœur à soi, et « son » avec un grand « s », son cœur à lui. Et ça, c'est toute une grâce. Quelle trouvaille, mes amis. Et surtout pour nous, les hommes, c'est un cadeau précieux, et je dirais indispensable. Je pense que ce n'est pas un secret des dieux, on peut bien se l'avouer entre confrères, que nous, les hommes, et ça inclut au premier rang, nous, les célibataires ecclésiastiques, trop souvent, nous n'avons pas appris à capter, harnacher et utiliser au maximum les forces vives de notre cœur. Beaucoup en ont même peur. Et certains ne veulent pas en tenir compte. Et pour être sûr de ne pas être troublé ou interpellé par leur cœur, ils ont simplement décidé de le débrancher, de cesser d'en tenir compte ou de l'écouter. D'autres sont aux prises depuis le début de leur vie avec ces élans du cœur et ces éclats de génie de leur esprit. C'est la guerre civile entre les deux, puis ils ne savent pas comment harmoniser le tout. Eh bien, on a découvert que le Seigneur, qui est tout amour, a un faible, semble-t-il, pour le cœur, source d'amour et de miséricorde. Et il nous montre que la tête n'atteint sa raison d'être et tout son potentiel que si elle est mise en orbite à l'intérieur d'un cœur qui aime naturellement et surnaturellement. Et là, peu à peu, le Seigneur montre à celui ou à celle qui lui dit oui, qui dit oui à cette inspiration enseignement, il lui montre ce qu'est l'intelligence du cœur, comment on est encore plus intelligent quand son intelligence baigne dans ce cœur qui aime. Il nous fait découvrir la volonté du cœur, la mémoire du cœur, l'éloquence du cœur, la prière du cœur, la bienveillance, la bienfaisance du cœur. Bref, l'aisance d'un cœur éclairé par l'esprit, par la tête, et épanoui par l'amour. J'aurais le goût ici d'ouvrir une parenthèse et de souligner qu'à mon avis, c'est une grave lacune dans l'Église. Et c'est là que je vois l'inconvénient qu'il y ait trop d'hommes en fonction et pas assez de femmes. Parce qu'il y a trop d'hommes qui œuvrent en Église seulement à coups de tête. On n'y sent pas toujours le cœur qui aime, naturellement ou surnaturellement. On les lit. On les écoute, on dialogue avec eux, ils nous parlent d'amour fraternel, d'amour divin. Dieu, aimez-vous les uns les autres. C'est beau, c'est vrai. Mais bien souvent, permettez-moi l'anglicisme, la réalité de nos comportements ne matche pas la beauté de nos arguments. Et ici, je ne veux culpabiliser personne, car cette affirmation m'interpelle comme tout le monde. Il ne s'agit pas de chercher les coupables, car cela remonte souvent à notre éducation familiale, sociale, scolaire, ecclésiastique ou religieuse, où avec de bonnes intentions, on nous a mis en garde contre le cœur et tous ses soubresauts. On parle actuellement, et fort heureusement, d'une plus grande présence, d'une plus grande influence des femmes en Église. Bravo, bravo, bravo. Mais je souhaite de tout mon cœur que les premières femmes à assumer des responsabilités en Église ne tombent pas dans ce défaut mignon des hommes et arrivent, elles aussi, avec une attitude qui marche à coup de tête. Souhaitons que tous ensemble, nous puissions laisser le Seigneur nous guider dans cette purification. Passons à un autre exemple. J'ai constaté, et nous avons constaté, avec beaucoup de satisfaction, une autre libération ou guérison progressive du Seigneur. Il nous a débarrassés, Dieu merci, c'est le cas de le dire, de cette maladie chronique fort répandue dans nos milieux d'Église et chez nous, les prêtres en particulier, que j'appelle la comparaisonite. Dans l'Église, on a généralement tendance à se comparer toujours les uns aux autres, à s'évaluer mutuellement, à apprécier l'importance de nos ministères, missions, activités, priorités, méthodes respectives par rapport à ce que font ou disent les autres. Combien de fois on entend des exclamations comme « Ah, ceci, c'est plus valable que ça. Ça, le Seigneur est pas pour ça. Faire ça ou faire ceci, c'est perdre son temps. Moi, je procéderais plutôt comme ceci ou comme cela. » Qui sommes-nous pour établir les normes de l'action du Seigneur en Église? Et alors, cette manie de comparaison, elle joue sur deux plans. On se compare par rapport au passé. On croit facilement que nos priorités, nos mouvements, nos méthodes, nos succès d'aujourd'hui sont nettement supérieurs à ce qui se passait il y a 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans en Église. Combien de gens aujourd'hui sont convaincus que les différents mouvements de renouveau spirituel sont nettement supérieurs en fait de participation, d'intégration à ce qu'étaient les ligues du Sacré-Cœur, les Dames de Sainte-Anne, l'Action catholique spécialisée, etc., etc.? On a la mémoire courte. Mais également, on passe notre temps à se comparer par rapport aux autres de notre génération. On croit que nos options, nos patentes, nos méthodes sont les plus valables et les plus importantes. Or, tout cela, mes amis, il faut bien l'admettre, c'est sans fondement. L'important pour chacun, c'est que ses activités à lui soient avec un grand S, ses activités à lui avec un grand S. Et le Seigneur nous l'a fait comprendre d'une façon très claire et très nette que l'importance de nos ministères, de nos activités, ne s'établit pas, mais pas du tout, horizontalement, de l'un à l'autre, mais seulement par rapport à lui. Et alors la question que chacun doit alors se poser, c'est celle-ci. Est-ce que ce que je fais est exactement ou non ce qu'il me demande, lui le Seigneur? Si oui, c'est important. Sinon, ça ne l'est pas ou peu. Et c'est le Seigneur qui établit un grand plan de la distribution complète de son amour partout et par tous les moyens à travers l'Église et le monde. Et alors, il confère à chacun une ou deux ou trois ou des livraisons de son amour ici et là. Et c'est à dessein qu'il diversifie ses plans. Voyez, je pense là à ces malheureuses et trop fréquentes dissensions que nous avons souvent entre nous, pasteurs d'âme, dans nos réunions ecclésiastiques. Et ça vient de quoi, ça? Ça vient qu'on se soucie surtout de la mise au point des pastorales comme telles. Et ça devient occasion de division, de divergence, d'opposition entre nous. Pourquoi? Parce que la mise au point des pastorales fait référence inévitablement à toute une variété d'expériences, de circonstances, de personnalités, d'urgences que chacun peut évaluer à sa manière. Et alors là, on n'est pas facilement d'accord. Et chacun, se basant sur son itinéraire, sur sa prospective de la vie de l'Église, eh bien, s'oppose aux autres. Tandis que si, au contraire, comme je l'ai souligné dans le deuxième point, on se souciait surtout du pasteur comme tel, et qu'on comprenait toujours sa raison d'être, on accepterait et on reconnaîtrait que c'est à dessein que l'Esprit inspire divers rôles, diverses idées, diverses façons de procéder, diverses priorités, divers styles de ministère. Et on se réjouirait alors de notre grande diversité et on cesserait de se comparer entre instruments, les uns avec les autres. Dans nos réunions ecclésiastiques, il faudrait s'en convaincre à fond. Il est non seulement normal, mais il est souhaitable que l'Esprit souffle aux uns comme aux autres diverses priorités et diverses façons de procéder, même face à des circonstances identiques. C'est alors à nous, même si c'est plus difficile, de les accueillir et de chercher dans la prière, et sans se bousculer ou se brusquer, prendre le temps de voir comment, si l'Esprit inspire à l'un telle façon et à l'autre telle autre façon, comment veut-il harmoniser, lui, ses diversités dans l'unité, dans la spontanéité, dans l'efficacité. Ce n'est pas pour rien que saint Paul nous rappelle aux Corinthiens que l'Esprit donne un message de sagesse à l'un et de science à un autre. Puis il s'exclame un peu plus loin, « Est-ce que tous sont apôtres? Est-ce que tous sont prophètes? Est-ce que tous sont enseignants? Est-ce que tous sont doués du discernement? » Donc, il nous affirme que le jeu de cette diversité est pour notre plus grand bien, et pour le bien de l'Église. Et alors, nos affrontements, nos heurts, nos incompréhensions vont justement à contre-courant. Enfin, je pourrais donner bien d'autres exemples. Je terminerai par un quatrième exemple de cette action que le Seigneur fait en nous, lentement mais sûrement, pour nous sortir de notre complexification et nous rendre sur la route de la simplification. Et cet autre exemple de transformation progressive à la sauce divine, c'est ceci. Très tôt, il nous dépouille, nous fait renoncer pour de bon, et lui nous amène à lui abandonner à jamais, pas seulement notre belle et bonne réputation, mais plus que ça, ce que j'appelle notre respectabilité. excessive, à laquelle on tient donc mordicus. Ça, c'est quelque chose à laisser partir. Et par fausse respectabilité, là, j'entends là, cette image de soi qu'on a soufflée, cette auréole qui est souvent surfaite et entretenue, cette sainte face qu'on se donne ou que les autres nous prêtent. Oh là là, que c'est pas facile de s'en défaire. Il n'y a pas tellement longtemps, un ancien collègue et ami m'arrive puis me dit à brûle pour point, Charles, n'as-tu pas l'impression, avec le recul du temps, là, après t'être ainsi retiré de la place publique en Église, depuis 9 ans et demi déjà, d'avoir quelque peu perdu la face? Puis, plus vite que je n'ai même eu le temps d'y penser, je me suis surpris moi-même à lui répondre avec vivacité du tic au tac, « Eh bien, mon cher, non seulement j'en ai l'impression, comme tu dis, mais j'en ai la certitude. Non seulement cette face, je l'ai perdue quelque peu, comme tu précises gentiment, mais je l'ai perdue complètement. Et pour de bon, puis j'en suis des plus heureux. » Devant ma surprenante réplique, qui était surprenante et pour lui et pour moi, parce que je n'avais jamais mis ça ensemble, ça a été à lui, à son tour, de changer de face. Oui, mes amis, je le confesse publiquement. L'option que j'ai prise en 1975 de donner tout à coup ma démission en tant que secrétaire général de l'Épiscopat du Canada pour aller vivre en retrait ou en retraite, si vous voulez, auprès du Seigneur, m'a bel et bien fait perdre la face. Pas seulement auprès de nombre d'évêques, de collègues prêtres, religieux ou religieuses, mais même de parents et d'amis. Fort heureusement, et j'ajoute cette précision, c'était ma face à perdre. Celle que je m'étais donnée, ou que les autres m'avaient donnée. Grâce à Dieu, à travers ces circonstances, je peux dire que la face à Matthieu, celle de ses 50 premières années de vie, les Anglais diraient « is gone with the wind », autant en emporte le vent. Quel bon débarras pour moi, d'abord et surtout, et nul doute pour vous tous, Deo gratias, comme t'es fin, Seigneur. En parlant, vous savez, de respectabilité, je prends un des aspects qui composent notre respectabilité artificielle, c'est cette auréole magique qui semble encore, hélas, entourer les titres et les fonctions en Église. Dans certains milieux, tant de la part des fidèles, vous savez, que de la part des titulaires eux-mêmes, les titres et les fonctions, ça continue à éblouir. Ça va du simple contentement à l'euphorie, de la fierté à la prétention et à la suffisance. Il y a des gens qui se pâment encore ou qui se croient au summum de leur carrière, devant les monsieur le curé, monsieur le doyen, monseigneur par-ci, monseigneur par-là, très révérend père, ma révérende mère, monsieur le chancelier, monsieur le vicaire général. Il faut bien l'admettre, il se crée là tout un réseau d'interactions, les unes amusantes, et je pourrais un jour consacrer tout un enseignement à raconter de ces faits, de ces anecdotes, les unes amusantes, et les autres paralysantes, les unes encensées et les autres insensées. En tout cela, vous savez, la respectabilité artificielle à la sauce mondaine intervient trop souvent et entraîne entre nous et dans nos relations avec le peuple, d'inutiles calculs, révérences, distances et conséquences. Pour un, je me souviens encore de ce jour où j'ai reçu moi-même ce titre de Monseigneur. À compter de cet accident de parcours dans ma vie, bien des gens ont changé d'attitude, sont devenus plus impressionnés a priori, plus gênés, plus distants, plus exigeants. On a semblé oublier que ces titres sont comme des rubans rouges sur des boîtes de chocolat. Ça tente de les rendre plus présentables, et ça réussit parfois, mais la qualité du chocolat n'est pas changée pour autant. Non, mes amis, il faut avoir le courage de laisser tomber sa respectabilité, là, toute soufflée, toute calculée, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi. Il ne peut pas nous faire cheminer dans la sanctification si nous avons encore cette image de soi là, qui est toute entretenue, exagérée, où on se croit exempt de toute peccabilité, du moins connue. On se croit exempt de toute erreur, de toute déchéance qu'on trouve ignoble chez les autres. Vous savez, il n'y a rien comme des épreuves dans la vie pour nous sortir, nous faire fondre instantanément cette espèce de respectabilité excessive. Il y a bien des parents qui ont perdu instantanément cette respectabilité quand ils ont vu un de leurs enfants se mettre à errer dans la vie alors qu'eux les avaient si bien éduqués. Il y a bien des gens qui ont perdu leur respectabilité quand tout à coup ils ont vu dans leur propre famille, eux qui sont prêtres, évêques, religieux, religieuses, qui ont vu tout à coup des abandons de la foi, le concubinage, envahir leurs proches parents et leurs amis. Des leaders spirituels qui chutent gravement alors qu'ils se surpassent en aidant les autres à sortir de leur faiblesse. Non, il faut vraiment se laisser détacher de tous ces aspects que l'on retient, se détacher de son image terrestre, humaine, artificielle, calculée, qui risque trop de nous distraire et de nous faire tourner vers nous au lieu de vers lui. Qui nous fait encore croire qu'on peut se sauver soi-même par une surveillance constante au lieu de s'avouer simplement et humblement, comme ayant absolument besoin de lui. Et c'est pour notre malheur, d'une certaine façon, que nous, prêtres, nous naissons, pour ainsi dire, respectables. On nous accorde la respectabilité au point de départ, avant même qu'on la mérite par nos gestes et nos paroles. Et cette respectabilité des autres varie selon leurs attentes et leurs expériences, et c'est comme ça que, tranquillement, ils nous poussent dans la recherche d'une espèce de polyvalence pour laquelle nous ne sommes pas préparés. Ils nous veulent des administrateurs extraordinaires, des psychologues compétents, des counselors exceptionnels, ils nous veulent des pédagogues, ils nous veulent des orateurs, ils nous veulent de tout. Et alors, on court à gauche et à droite pour tenter d'avoir l'air ou de devenir respectable à tous ces points de vue, mais c'est en vain, car ça va au détriment de sa respectabilité à lui. La seule face à vraiment avoir et à garder à tout prix, c'est celle que le Seigneur nous donne et cherche à embellir, celle qu'on va emporter en paradis pour notre face-à-face éternelle avec lui. Toute autre face, maintenu à coup de calcul, de compromission, de jeu de coulisses ou de ligue, de salamalec de tout genre, est du temps perdu pour nous et pour les autres. Et alors, mes chers amis, je vois que le temps passe. Je termine ce troisième point de ce partage fraternel. Je pourrais donner beaucoup d'autres exemples vécus de cette désintoxication que le Seigneur fait en nous. Mais j'ai d'autres points que je voudrais partager. Qu'il me suffise de dire là que pour devenir simple, enfant, tout petit devant le Seigneur, il faut plonger dans la foi et le laisser faire. C'est lui qui nous prend en main, qui nous purifie, nous achemine vers cette indispensable simplicité. Je rappelle, comme je l'ai dit tantôt, que notre contribution est très simple. On n'a qu'à dire « Oui, Seigneur, je le veux. Je veux devenir simple à ton école. » Et nous enlever de son chemin. Le laisser choisir ses moyens, ses instruments, son échéancier et son scénario. Passons maintenant, si vous le voulez, au quatrième point, qui constitue, je pense, la partie la plus importante du partage que je tiens à faire avec vous. Vous savez, pendant que le Seigneur a continué à nous ciseler, chacun et chacune, de notre côté, à nous rendre de plus en plus dociles et disponibles envers lui, dans sa bienveillance, toute gratuite, il n'était pas obligé. Malgré nos délais, nos lacunes, notre hésitation qui a persisté longtemps, il a daigné nous enseigner trois choses formidables qui ont révolutionné, à vrai dire, toutes nos vies. Il ne s'agit pas de trois vérités neuves en soi. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Mais de trois vérités qui, parce que c'est lui qui nous les a expliquées avec clarté et simplicité, comme à de tout petits enfants. Ces vérités ont éclaté en nous. On les a retrouvés décapés pour nous. On les a enfin vraiment comprises et on les a vraiment vécues et expérimentées et finalement, on les a vraiment adoptées, intégrées, parce qu'elles se sont confirmées et elles se sont rivées à jamais en nous. Pour y arriver, le Seigneur a procédé à travers notre comportement communautaire, où tout a été prié, discerné, partagé et reconfirmé de 36 façons. Et on s'est rendu compte seulement plus tard que ces trois enseignements du Seigneur nous ont fait découvrir peu à peu et vivre de plus en plus un tout nouveau style de vie et d'action en Église. Un style tout autre que celui que chacun et chacune de nous avait connu jusqu'alors depuis le début de sa vie. On n'en revenait pas. Plus les mois et les années passaient. Cette découverte nous a tous pris par surprise, car il n'y avait pas eu de notre part, et j'insiste beaucoup là-dessus, il n'y avait pas eu d'hypothèse précise de recherche, aucune piste d'établie, aucune concertation. On avait plongé dans la foi, on ne savait pas où on s'en allait, si ce n'est qu'entre ses mains. Il n'y a eu rien d'autre que notre plongée dans la foi et notre espérance d'enfant qu'il pouvait, s'il le voulait, répondre à cette grande question que j'ai partagée avec vous et qui est à la page 32 de la brochure. Qu'est-ce qui nous ou lui manque à l'Église de nos jours pour avoir si peu d'impact, de leadership, de rentabilité spirituelle? Ce nouveau et deuxième style d'Église, pour pour nous autres, c'était le deuxième, tout autre que celui qui prévaut de façon générale maintenant, s'est vite avéré pour nous, et je cite ici ma propre lettre aux évêques du Canada, s'est avéré fantastique, infiniment supérieur à celui qu'on avait connu, nettement plus efficace et sanctifiant, en tous les cas, beaucoup plus conforme à la foi, au vrai sens et aux origines de l'Église, à ce qui nous semble les désirs profonds et actuels des fidèles, et de toute évidence, au désir même, aux vues du Seigneur. Ce nouveau style de vie et d'action en Église nous a réjouis et nous l'avons savouré pendant 9 ans et demi, croyez-moi. Nous l'avons aussi vérifié sous toutes ses coutures, expérimenté inlassablement, prié, discerné, approfondi. Il a résisté à tout et a fait l'unanimité complète chez tous ceux, sans exception ou restriction, et je parle de notre groupe et des milliers de frères et sœurs en Église qui l'ont expérimenté, il a fait l'unanimité complète. Et ici, je vous précise que nous sommes convaincus mordicus aujourd'hui, après cette expérience spirituelle vraiment merveilleuse, que ces 3 enseignements sont et seront les éléments majeurs et moteurs de cette fameuse Église prophétisée par Jean 23, et que tous attendent encore et souhaitent de tout leur cœur. Une Église dont l'aggiornamento spirituel, en plus des réformes institutionnelles, aura été complétée à fond et au fond. Et donc, une Église dans laquelle la spontanéité, la diversité, l'efficacité, l'unité de l'Esprit du Seigneur joueront enfin à plein et à jamais, si possible. Alors, je veux vous donner en capsule seulement ces 3 trouvailles ou expériences de vie merveilleuses. Il existe déjà des cassettes sur chacun de ces 3 points-là où j'élabore beaucoup plus longuement, mais aujourd'hui, je vais essayer de les récapituler. Pour nous, nous les appelons les 3 chaînons dorés du renouveau en profondeur de l'Église. Les 3 chaînons indispensables, complémentaires et inséparables. Je passe au premier enseignement. Notre première grande découverte, ça a été la notion exacte de ce qu'est l'œuvre du Seigneur par rapport à l'œuvre pour le Seigneur. Dès le tout début de nos fondations, dans la prière et le discernement, nous avons été orientés vers cet enseignement. Et pour la première fois de ma vie, j'ai découvert que c'est le jour et la nuit, de A à Z, entre faire une œuvre pour le Seigneur et faire l'œuvre du Seigneur. Je dis rapidement ceci, que dans le cas d'une œuvre pour le Seigneur, ça se construit comme une maison, de bas en haut. On commence par découvrir des besoins, on trouve des solutions, on organise l'œuvre, et tout à coup, rendu au 4e étage, on dit « Seigneur, c'est pour ta gloire ». Tandis que l'œuvre du Seigneur, ça se construit à l'inverse, du haut en bas. Ça nous descend du ciel et étage par étage, ça vient se déposer sur le sol. Et chacun d'entre nous est libre d'opter pour l'un ou l'autre type. Mais il ne faut pas oublier. L'Église que le Seigneur a fondée, lui, Il a décidé que ce serait son œuvre à lui et non pas la nôtre pour lui. Que par conséquent, son Église devait être et demeurer entre ses mains, fonctionner selon son scénario, à ses conditions. Et alors, à chaque fois que nous, en Église, on se substitue à son dessein, on brûle tout et tous au point de départ. Vous avez probablement été impressionné par cette citation d'Isabelle Gauvin à la page 14 de la brochure. Je la relis parce qu'elle est très dense et elle résume tout. Initialement fondée en tant qu'œuvre du Seigneur, l'Église entre nos mains est devenue peu à peu une œuvre pour le Seigneur. Avec les meilleures intentions, sans trop nous en rendre compte, nous nous la sommes appropriée. L'heure est à la restitution de l'Église institutionnelle véritablement entre les mains de son maître. C'est clair. Soit un retour à son statut de départ. Vatican II ne sera réussi qu'à cette ultime condition. Toutes nos réformes jusqu'ici, si valables soient-elles, demeureront mineures, partielles et éphémères sans cette résurrection fondamentale. Et au dernier paragraphe, l'Église nouvelle prophétisée par Jean 23 est encore à venir dans ce qu'il y a de plus essentiel. Mes chers amis, l'Église est bonne, elle fait du bien, d'accord. Mais avec nous dans son chemin, il ne peut pas faire tout ce qu'il pourrait et voudrait. Il nous faut absolument réapprendre à être sérieux quand on dit « Je veux faire ta volonté, Seigneur, et je veux être ton instrument, Seigneur. » Alors que bien souvent, on ne prend pas les moyens ni le temps nécessaires pour y arriver. C'est tellement plus facile de se fier à ses inspirations à soi, ses élans, ses goûts, son expérience, ses talents personnels. On peut alors y aller à fond de train, se sentir utile parce qu'actif et très occupé. J'en sais quelque chose. Durant les 28 premières années de ma vie sacerdotale, j'en ai fait surabondamment des bonnes œuvres pour le Seigneur. Mais elles étaient toutes, je l'ai constaté après coup, elles étaient toutes apprêtées à la sauce Matthieu. À cette sauce Matthieu que je préparais avec soin, oui, au meilleur de mon âme et conscience. Et donc, c'était valable à mes yeux. C'était satisfaisant. Ça me paraissait utile. Mais depuis 1975, à travers cet envahissement de ce nouveau concept pour moi et pour nous, j'ai appris qu'une vie sacerdotale pouvait connaître un tout autre style de ministère infiniment plus gratifiant, plus efficace, plus conforme au désir du Seigneur. En passant des œuvres pour le Seigneur au style d'une œuvre du Seigneur. D'une vie occupée à bien des points de vue, à une vie remplie à tout point de vue. Et c'est là que j'ai décidé de prendre ma retraite du premier style d'Église. Encore une fois, j'insiste en le précisant à nouveau, c'est lui qui nous le fait désirer.